C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 21 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, couvert ce matin, et c'est un peu ça aussi pour la journée, nuageux avec quelques périodes de soleil, surtout durant l'après-midi. Le maximum va tourner autour de 21. Ce soir, ça se gâte, on prévoit des averses très tôt en soirée, risque d'orage, et c'est un 10 à 20 mm de pluie qui s'ajoute. Qui s'ajoute à quoi? Ben à ce qu'on a reçu dimanche, vraiment une journée assez intense. La douche du début de semaine lundi soir, puis là donc pour la soirée, puis une partie de la nuit, on prévoit des précipitations. Ce qui nous amène demain jeudi à un ciel couvert. Il y aura aussi quelques moments de soleil, températures qui descendent tout doucement autour de 18. Et puis vendredi, ben on prévoit du soleil, passage nuageux, 14. Les nuits vont tourner autour de 7 degrés. Et pour la fin de semaine, jusqu'à maintenant, ça s'annonce pas si mal, là, c'est-à-dire du soleil, température 17 degrés, puis à peu près le même scénario pour dimanche. Bon, il y a un sondage ce matin, Cogeco, fait par Segma, pour le compte aussi du Soleil de Québec. Je vais y revenir dans deux instants. Ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que le sondage confirme la domination de la CAQ, qui baisse un peu ou reste relativement stable, mais le fait saillant, c'est Québec solidaire qui arrive maintenant deuxième. C'est extrêmement serré, mais je vais vous détailler ça dans quelques minutes. Mais avant tout, je veux parler d'enjeux concrets, réels, qui font en sorte que les gens sont confrontés à des difficultés au quotidien. Puis je vais vous donner trois exemples ce matin. On n'est pas dans des promesses de milliards, puis dans des engagements un peu fumeux que nous lancent les partis politiques depuis le début. Je vais commencer par le transport scolaire. Je ne sais pas combien il y a de parents ce matin, à l'écoute, qui se grattent la tête en disant « Comment mon enfant va se rendre à l'école? » Je vous donne l'exemple du père de Kellyanne qui m'a écrit. « Depuis la rentrée scolaire, le 31 août, 1er 2 septembre, le 19 jusqu'au 23 septembre, le matin ou l'après-midi, il n'y a pas de transport scolaire pour ces dates. Il habite dans le coin de Pointe-Calumet. Et là, il faut se débrouiller. Je racontais plutôt l'histoire de deux parents, deux enseignants, qui travaillent donc dans des écoles à Montréal, qui doivent partir tôt pour venir enseigner. Et de façon régulière, il n'y a pas de service scolaire pour leur ado qui ne va pas à l'école. Là, ils font quoi? Ils laissent tomber leur classe. Et souvent, on l'apprend à la dernière minute. On a essayé de parler au ministre de l'Éducation. Alors, c'est, disons, il n'y a pas de signaux, là. Et on peut comprendre que M. Robert ne sera pas de retour à l'éducation, là. Disons que le premier ministre, hier, n'a pas caché ses intentions. On dit, quand tu confirmes bien des gens, Dubé en santé, l'équipe économique, puis tu dis, Robert, mais là, on verra, on a des recrues de grands talents. Alors, c'est un enjeu pour beaucoup de parents, puis ne vous gênez pas pour m'écrire puis me le dire quand vous avez ces problèmes-là. Je comprends, là, pénurie de chauffeurs, les compagnons ont de la misère à trouver du monde. Pis c'est pas payé trop des conducteurs d'autobus. Ça, c'est une première réalité. Transport adapté, ça fait quelques fois que je vous en parle. Tous les jours, j'ai des cas de gens qui se font refuser le transport adapté avec accompagnement. Ça a commencé, vous allez vous en souvenir, par le refus complet. Puis là, après ça, on a finalement trouvé des ressources pour une bénéficiaire à qui on a parlé et qui obtient le service avec accompagnement. Et moi, je suis un peu, je vais vous le dire, là, irrité du discours officiel de l'intégration. Tu sais, les espèces de phrases toutes faites qu'on entend là, en campagne électorale, que ce soit au municipal, puis la mobilité, puis le transport, puis brisons l'isolement, puis bon. Je regarde ça, là, puis j'ai des échos de gens qui ont le nez un peu partout dans les dossiers de transport adaptés. Puis sérieusement, je suis en train de me dire, là, est-ce qu'on est en train de faire des économies sur le dos des handicapés? Est-ce qu'on les prive d'un service? Est-ce qu'on les empêche d'avoir un petit peu de liberté parce qu'il faut gérer un budget? Je vais y revenir, puis je ne veux pas trop m'avancer maintenant. Couple de questions à poser tantôt. Mais c'est vrai pour des gens qui ont des rendez-vous à l'hôpital, c'est vrai pour des gens qui veulent aller étudier, ou carrément avoir un moment un petit peu de bonheur dans une vie qui, malheureusement, est remplie d'obstacles. Puis je pense pas que ce sont des gens qui exagèrent, puis je pense pas que ce sont des gens, là, c'est comme une auditrice qui m'écrit, elle a besoin d'accompagnement parce qu'elle peut être étourdie, une espèce de perte d'orientation. Peux-tu permettre de la transporter avec quelqu'un, une amie, aidant naturel qui peut la soutenir dans ces moments-là? Puis le troisième, cette semaine, je parlais avec Charles Lafortune, qui, avec Sophie Préjean, ont cette fondation pour les autistes qui atteignent les 18 ans. Puis comment on peut aider ces jeunes adultes à fonctionner le plus possible dans la société. J'ai reçu deux messages, en fait un message visant deux mères. Puis je vous raconte ça, là. Elle s'appelle Maryse, elle a 56 ans, et elle est la mère de Mathieu, qui a 31 ans, qui souffre de paralysie cérébrale profonde et physique sévère. Chantal a 52 ans, elle est la mère de Kevin, 36 ans, qui lui aussi est atteint de paralysie. Elles sont incapables d'avoir des moments de répit. Et ce qu'on leur dit dans le fond, parce que ce sont des femmes qui prennent soin de leur bébé devenu adulte, qui monopolisent toute l'énergie, puis qui auraient besoin, comme n'importe qui, d'avoir des moments de répit puis dire que quelqu'un peut s'en occuper un week-end, quelques jours. Dans les faits, il y a par exemple une nouvelle maison qui vient d'être construite pour des personnes lourdement handicapées à Repentigny. 12 lits réservés pour des gens handicapés lourdement. Mais c'est pour du placement à long terme. Oui, mais moi, j'aurais besoin peut-être d'un espace pour un week-end par mois. Non. Alors, c'est quoi le message que l'État envoie? Placez vos enfants, débarrassez-vous de ces jeunes adultes, dans le sens que l'État va prendre charge d'eux, alors que les deux mères veulent continuer à le faire. Mais personne ne les entend. Les cas dont je vous parle ce matin de transport adapté, de transport scolaire, de répit, ce sont de véritables enjeux. Peut-être pas dans l'esprit des politiciens, mais pour les gens, là, c'est du quotidien, ça, ce dont on parle ce matin. Ce qui m'amène à vous parler, bien sûr, du sondage qu'on publie avec la firme Segma. Alors, voici les chiffres. Et c'est un sondage, donc, après débat, qui est intéressant. C'est sûr que la CAQ domine encore une fois le sondage ce matin à travers le Québec. Ils en arrachent à Montréal un peu, là, mais de façon globale, on peut convenir ce matin que François Legault, avec la répartition des indécis, la CAQ, c'est à peu près 40 %. Québec solidaire arrive deuxième à 16,4. Dominique Anglade, 14,5. Éric Duhaime, 14,4. Et Paul Saint-Pierre Plamondon est à pratiquement 14. Donc, on a un parti qui, de toute évidence, va former un gouvernement majoritaire. Et là, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe entre les partis d'opposition. C'est pas une lutte à deux, là. C'est pas vrai. On peut dire que M. Duhaime, particulièrement dans la région de Québec, a son noyau dur, là, c'est autour de 25 %. Puis ça va se traduire peut-être par une victoire, peut-être deux comtés. Peut-être pas non plus. Mais en tout cas, il y a un potentiel parce que c'est assez concentré dans la région de Québec puis la Beauce. Québec solidaire, 16 %. Et là, on comprend que chez les jeunes, évidemment, on marque des points. Le Parti québécois, faut pas parler là, d'une renaissance absolue, mais on s'éloigne un peu plus de la mort annoncée. Et encore là, est-ce que Pascal Bérubé va être le seul député à Québec? Certains me parlent de Bonaventure, Jonathan Trudeau va nous en jaser tantôt. La mauvaise nouvelle, dans le fond, ce matin, puis on comprend un peu la stratégie de Mme Anglade, c'est pour le Parti libéral, là. À part les forteresses anglophones, c'est bon, dans le West Island, Darcy McGee, ces comtés-là, là, le Parti libéral est en train de complètement disparaître à travers le Québec. Et est-ce que l'effondrement va être tel que Québec solidaire va être capable de passer? Trop tôt pour le dire avec les données. Mais vraiment, les Québécois sont partagés. Plusieurs pensent que la meilleure opposition, ce serait Québec solidaire face à un gouvernement de la CAQ. Ça, c'est premier constat, donc, en termes de popularité, pas en termes de vote. Le deuxième constat qu'on peut faire, la fameuse taxe de 15% là, sur les véhicules dits polluants proposée par Québec solidaire, ben pas loin de 60% des Québécois sont contre cette proposition parce qu'ils considèrent que d'abord, on paie assez de taxes puis qu'on n'a pas besoin d'en ajouter. Officiellement, là, c'est 58% contre la proposition de surtaxe de Québec solidaire. Puis je vais revenir sur les propositions. Parlons-en des propositions de Québec solidaire. Parce que Québec solidaire arrive avec, comme toile de fond, une meilleure redistribution de la richesse. Personne n'est contre ça, dans les faits. Et nous sort des slogans « Faisons payer les riches » et « Qui sont les riches ?» Et hier, j'avais cet entretien avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis j'essaie de lui donner des exemples de gens qui, à mes yeux, sont pas des personnes riches. Et c'est le cas d'une auditrice propriétaire d'un immeuble qui vaut 1,3 million et qui a quelques placements, qui est donc une retraitée, puis qui a pas des gros revenus, puis qui trouve que ça coûte cher vivre. Parce que cette, puis là, oui, mais quelques centaines de dollars. C'est toujours quelques centaines de dollars, évidemment. Deux choses à dire là-dessus. Beaucoup de gens m'envoient des extraits du programme de Québec solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois est très habile. Il fait la différence entre la plateforme électorale puis le programme. Quand vous regardez le programme, c'est beaucoup plus à gauche. Par exemple, quand on parle de gérer les fonds de retraite d'à peu près tout le monde, quand on parle de faire disparaître les déductions pour les contributions à des fondations, par exemple de recherche. Moi, ça m'hallucine là, de penser qu'on voudrait couper les ailes à la recherche et confier ça à l'État. Parce qu'en bout de ligne, ce que Québec solidaire propose, ça revient toujours un peu à nourrir la bureaucratie puis dire l'État va s'en occuper. L'État a un rôle à jouer, mais on peut pas dire que l'État est toujours super efficace et que souvent, le privé peut jouer un rôle. Puis en santé, on l'a vu, puis les sondages montrent que les Québécois se disent « Gardons un peu une forme de service privé. » Puis la meilleure image, là, on le voit actuellement pour désengorger les listes d'attente en chirurgie. L'hôpital fournit pas. Peut faire des débats sémantiques jusqu'à demain. Fait des ententes avec le privé. Et le patient ne paye pas. C'est ça qui est fondamental dans l'approche. Et ce matin, dans Le Devoir, si vous pouvez lire ça, c'est riche insoupçonné. Et les promesses d'imposer les plus fortunés pourraient toucher plus de Québécois qu'on le pense. C'est ça qu'on essaie de dire depuis le début. Tu sais, si on disait, on exclut de ce patrimoine-là qu'on veut surimposer la propriété, ce serait une chose. Tu sais, si t'as 1 million de placements, ben, ouais, peut-être faut que tu payes un peu plus. Et là, les chiffres que nous sortent Québec solidaire, c'est 5% du monde, puis c'est pas si simple que ça. Puis on sous-estime aussi que les Québécois payent beaucoup d'impôts et que même ceux qu'on dit les plus fortunés en payent pas mal. Les écarts de richesse sont pas mal moins grands au Québec qu'ailleurs. Je vous dis pas qu'il y en a pas. Mais c'est parce qu'à force de vouloir taxer des gens qui travaillent, des gens qui investissent dans leur petite entreprise, des travailleurs autonomes qui essaient de se bâtir un patrimoine, tu viens pas mal de tuer l'initiative dans bien des cas. Je trouve que c'est à lire dans Le Devoir. Ça sort un peu des dogmes, puis ça nous donne une autre vision de la réalité. Entre-temps, ben François Legault peut pas dire que c'est une très bonne campagne, encore une fois. L'exemple hier, t'es obligé de s'excuser sur les propos qu'il a tenus concernant sa relation avec les Atikamekw, le racisme systémique, le mari de Joyce Echaquan. Il l'a échappé. Puis là, il dit qu'il va rencontrer M. Dubé. Tout ça parce que dans la presse, on a ressorti les propos de M. Dubé qui dit que pas capable de parler au PM, puis c'est pas vrai que tout est réglé. Je le disais lundi, c'est pas une très très bonne campagne. S'excuser, c'est correct, là. Mais quand c'est devenu pratiquement une façon de faire campagne, ça en dit long. Et puis hier, il a dit, Dubé va être en santé, l'équipe économique va être là, Fitzgibbon, Éric Girard, Sonia Lebel, au Trésor. Robert, pas certain. Ben du bon monde. Et mon ami Bernard et Martine Biron ont l'air, en tout cas, d'être en ligne pour des postes de ministre sur la rive sud de Québec. L'inflation, on a vu, c'est sorti hier, à retenir. Oui, ça baisse un peu, pas assez vite aux yeux de la Banque du Canada. Signal envoyé, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et il y a certains économistes de banque qui prévoient une récession pour 2023. Mais dans les faits, là, puis vous le constatez, votre panier d'épicerie augmente beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y a des produits, là, je pense à des huiles, par exemple. Je regardais ce matin ce qui coûte de plus en plus cher à travers le Canada, où il y a des augmentations spectaculaires, tout ce qui concerne le grain, par exemple. Alors, la boulangerie, les importations d'huile, par exemple. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais ça, là, vous rêvez pas. Quand vous dites à la caisse, tabarouette, combien ça me coûte aujourd'hui? Ben, vous avez raison, là, ça coûte pas mal cher. Et puis, l'autre nouvelle importante, tout indique que le Canada va laisser tomber, d'abord, la vaccination obligatoire pour les gens qui voyagent, la fameuse plateforme ArriveCan serait optionnelle, puis surtout, on va arrêter les tests aléatoires qui sont d'un ridicule consommé, là. T'sais, t'as le temps de contaminer à peu près tout le monde, là, avant d'avoir ton résultat. La façon dont c'est fait. Alors, d'ici peut-être les prochains jours, le 30 septembre. Et puis, je reviendrai sur l'Ukraine. Poutine y va d'un discours pour essayer de calmer les ardeurs dans son pays. Fait du chantage nucléaire en disant on peut utiliser l'arme ultime pour se protéger. Et mobilise possiblement 300 000 soldats de plus pour se battre, dit-il, contre l'Occident et les néo-nazis. La propagande qui, évidemment, continue.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, encore un événement violent, pardon, avec coup de feu. Ça s'est passé tout près du Centre Bell. Un mort, Bénédicte, et deux hommes blessés.
Ouais, trois hommes qui sont dans la début vingtaine qui ont été impliqués. Et la scène de crime, elle est très importante. Encore sur place ce matin. Tout débute devant le Centre Bell autour de 20h au coin de Saint-Antoine et de la Montagne. Il y a un véhicule en mouvement qui aurait fait feu sur le véhicule des victimes. Et là, plusieurs coups de feu, plusieurs douilles qui ont été retrouvées sur place. Et le conducteur visé ne s'est pas arrêté tout de suite. Il a poursuivi sa route jusque devant le métro Georges-Vanier, c'est environ un kilomètre plus loin. Et c'est là que l'homme s'est écroulé. À son décès qui a été constaté sur place. Le passager du véhicule aussi a été atteint par balle, transporté à l'hôpital. Au départ, on parlait d'un état critique, mais son état se serait stabilisé. Et hier, je suis allée sur place et vers 22h30, le corps de la victime qui était encore sur le sol, la scène qui était pratiquement intacte, on voyait la portière de la Honda Civic du côté passager qui était toujours... ouverte. On voyait les impacts de balles très clairs sur le véhicule. Et en faisant des recherches, les policiers ont trouvé d'abord ces deux victimes, mais une troisième aussi, localisée sur Saint-Antoine et Saint-Martin. C'est à peu près à deux rues du métro Georges-Vanier. Et là, c'est un homme dans la vingtaine qui avait été atteint au bas du corps. Lui aussi, son état s'est stabilisé dans les dernières heures. On essaie de comprendre, est-ce qu'il était dans la voiture ou avec les autres victimes? Ça, c'est pas clair encore, mais il y a plusieurs caméras de surveillance qui devraient aider. Marc en parlait tantôt des détours pas mal dans ce secteur-là. Est-ce que les gens se connaissent? Est-ce qu'ils sont connus des policiers? C'est l'enquête qui est en cours, mais on parle du 25e homicide à Montréal.
Un piéton qui a été frappé à mort dans Hochelaga-Maisonneuve.
Et ça s'est passé pratiquement en même temps, là, tout juste avant 20h, sur la rue Hochelaga, près de La Salle. C'est une collision entre un véhicule et un piéton, mais je te dirais que l'impact a été assez violent, le piéton qui a été projeté. C'est un homme de 32 ans, qui finalement a succombé à ses blessures. Il est décédé. La scène était sur deux rues, je suis allée voir, là, et possiblement que l'homme aurait été du moins traîné ou projeté, là, mais ce qui est considéré pour l'instant par les policiers, c'est que la vitesse serait en cause. Possiblement que la personne arrivait à grande vitesse. On parle d'un conducteur de 20 ans et lui pourrait faire face à des accusations, d'autant plus qu'il ne s'est pas arrêté sur le coup. Il a tourné et descendu dans une rue un peu plus bas et c'est là qu'il s'est arrêté. Donc, à voir s'il y aura des accusations. Malheureusement, quelqu'un qui est décédé.
Et revenons sur ce délit de fuite mortelle à Laval. La conductrice recherchée a été finalement localisée puis arrêtée.
Oui, ça s'est passé hier soir. Une femme de 29 ans, elle a été arrêtée alors qu'elle était en déplacement du côté de Montréal. Son véhicule qui avait été localisé, saisi plus tôt dans la journée. On ne révèle pas encore son identité parce qu'elle n'a pas encore comparu, mais c'est une femme qui était quand même connue des policiers. Elle pourrait faire face au palais de justice à des accusations de délit de fuite causant la mort, mais aussi d'homicide involontaire coupable. J'ai parlé avec le fils de la victime, le fils de M. Taillon, qui disait, ben, au moins, là, on a quelque chose de moins sur les épaules. On sait que cette personne-là va devoir répondre de ses actes.
Bon, il y a cette histoire de ce jeune de 13 ans poignardé à côté d'une école à Vaudreuil-Dorion. Et on a vu ces images là, assez saisissantes là, de l'agression sur les réseaux sociaux.
Ouais, des images troublantes et qui ont circulé pas mal.
Ouais.
Ça aussi, là, l'événement qui remonte à la semaine dernière, lundi, on voit un jeune de 13 ans qui est poignardé à la jambe après un conflit qui a dégénéré. C'est sur l'heure du midi dans un parc de l'avenue Saint-Charles. C'est tout près de l'école de la Cité des Jeunes. Et sur les images, on voit le jeune qui est blessé, qui s'enfuit. Je vous laisse entendre la suite. C'est une jeune femme qui était là qui m'a raconté.
Le gars qui s'est fait poignarder est à côté de moi. Il a insulté la mère du gars. Fait que là, le gars, il s'est énervé, il l'a poignardé, puis après, j'ai vu le gars partir à courir, puis il était couché par terre, il était en sueur, puis il s'est levé. Puis là, j'ai dit, ben, je l'ai pris, puis j'ai dit, tu vas t'asseoir, ta plaie est ouverte, ça saigne, fait que tu dois rester par terre, puis on va appeler quelqu'un.
Alors, tout ça qui serait parti d'une insulte à propos de la mère de quelqu'un, il y a un adulte qui circulait dans le coin, qui est intervenu, on le voit sur les images, qui mobilise le suspect. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés et sont venus en renfort. Le jeune qui va devoir faire face à la justice, on parle d'un jeune de 15 ans. Mais c'est assez troublant aussi que ça soit sur les réseaux sociaux et que les gens
se
diffusent ça et se partagent ça.
Alors, merci, voilà. Bénédicte. Merci beaucoup. On va parler de transport adapté. J'en ai parlé beaucoup depuis la rentrée avec de nombreux cas. Un bref rappel, Catherine Montpetit, qui est quadriplégique et qui a besoin d'assistance pour aller... En fait, pour revenir du CHUM pour un traitement médical, elle a dû se débrouiller pendant le mois d'août. Elle a payé de sa poche et le 6 septembre, finalement, on est en mesure de lui offrir ce service. On parlait avec Mme Gauthier cette semaine où, pour elle aussi, c'est difficile. J'ai des étudiants handicapés qui me disent, comme c'est pas un rendez-vous médical, on veut pas m'accompagner, j'ai de la misère à avoir du service. Éric Allen Caldwell, président du conseil d'administration de la STM. Monsieur Caldwell, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Qu'est-ce qui se passe avec le transport adapté? Pourquoi c'est si compliqué d'avoir un service?
C'est une question à la base, là. C'est une question d'offre et de demande, là. Rappelons les faits. Il y avait à la STM, avant la pandémie, à peu près 11 000 déplacements par jour. Évidemment, il y a eu une baisse de l'achalandage pendant la pandémie et il y a eu aussi une érosion de l'offre de taxis. 88 % de nos transports adaptés se font en taxi à la STM. Les minibus, c'est pour 12 % de service. Donc là, on s'est retrouvé à une situation d'un point de rupture au mois d'août où, bien qu'on avait juste 6 000 demandes de transport, plutôt qu'11 000, il y avait une offre de taxi qui nous permettait pas d'accoter cette demande pour respecter notre politique de zéro refus. Politique de zéro refus, c'est qu'on offre le transport et l'accompagnateur à ceux qui le demandent. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des restrictions pour qu'on puisse faire tous les déplacements. On a vu cette situation le venir, donc on a renégocié nos contrats avec l'industrie du taxi. Ils n'étaient pas à échéance, mais on les a renégociés. Québec a décrété une hausse du taximètre. On est allé plus haut que la hausse du taximètre décrétée par Québec. On donne des bonus aux nouveaux chauffeurs qui vont de 2 000 à 5 000 $. On est en recrutement. Donc, on a signé avec nos 8 intermédiaires de l'industrie du taxi des nouvelles ententes qui sont rentrées en fonction le 12 septembre. Donc là, on voit une hausse du 6 000 qu'on était, là. On est rendu à 8 000. Mais il faut monter encore.
OK, mais deux, trois choses. D'abord, est-ce que vous avez besoin, puis là, on parlera des taxis tantôt, là. Avez-vous besoin de chauffeur à la STM pour le transport adapté?
Non. Le 12 % de l'offre qu'on fait via les minibus, on est correct.
OK. C'est pour ça qu'il n'y a aucun poste de chauffeur qui est affiché sur le site de la Société de transport. Vous n'avez pas besoin de chauffeur d'autobus, vous?
Présentement, on n'a pas besoin de chauffeur ni pour les autobus réguliers, ni pour les minivans les minibus de transport adapté.
Est-ce que tous les véhicules de transport adapté de la STM sont utilisés actuellement?
Toute notre flotte est mise à contribution, justement. Il y a même des autobus qui, avant, étaient dévolus à un service de navetteur qui est présentement pas en fonction, qu'on est en train de transformer, justement, pour les remettre sur la route.
Mais ma question, c'est est-ce que vous pouvez mettre plus de chauffeurs, plus de véhicules de la STM sur la route?
Ben, présentement, moi, avec les données que j'ai, là, tous les véhicules qu'on peut utiliser, on les a. Comme je vous dis, il y a même des véhicules, des minibus qui étaient plus pour des passagers avec des bancs qu'on est en train de transformer pour les ramener dans la flotte de transport adapté.
Vous me dites, on a des ententes avec les taxis. Moi, ouais. Ce que je reçois comme info, là, c'est que c'est pas payant pour un taxi de faire du transport adapté. Que les chauffeurs, il y en a qui, d'ailleurs, sont disponibles quelques jours par semaine, ils se font rien offrir, ou encore, le montant est pas suffisant, ils préfèrent faire autre chose.
Ouais. Ben là-dessus, comme je vous dis, là, on a bonifié justement les conditions des chauffeurs avec les 8 intermédiaires. est-ce qu'on pourrait faire plus? Là, il y a une question de financement. Moi, je vais vous dire, là, comme président de la STM, là, cette bonification-là nous coûte 15 millions de dollars et j'ai aucun financement associé à ça. Là. Parce que justement, il fallait régler le problème. On s'est dit, on fera pas de politique avec ça, on fera pas de gestion budgétaire. Donc, on a augmenté, on a négocié avec les intermédiaires, on en est arrivé à une entente. C'est pas une entente qu'on leur a imposée, c'est une entente qu'on a négociée avec eux. Et on voit les effets de ça.
Je comprends, mais ils sont pas capables de vous donner le service.
Ben, depuis le mois d'août, là, on voit une augmentation entre 6 000 et 8 000 déplacements grâce à l'industrie du taxi qui est au rendez-vous et l'augmentation du nombre de chauffeurs.
Avant, c'était 11 000.
Exact. Faut remonter la côte. Mais vous savez que l'industrie du taxi, là, c'est une industrie qui est un peu désorganisée suite aux changements législatifs qui ont été faits, qui ont ouvert la porte à Uber. L'industrie avait certains décrivaient ça comme une inertie, mais c'était aussi une stabilité.
Je comprends, mais deux, trois questions additionnelles. Est-ce qu'il y a eu des problèmes sous l'ancienne administration avec le transport adapté dans, appelons ça les budgets, appelons ça la planification, prévoir l'après-pandémie? Autrement dit, là, votre ancien DG qui était là, est-ce qu'il a fait une bonne job au transport adapté?
Jusqu'au début de la pandémie et même pendant la pandémie, le transport adapté a toujours été au rendez-vous. C'est-à-dire les gens qui le demandaient pour un accompagnateur, il n'y avait pas de refus. Les gens pouvaient booker jusqu'à la veille, puis on était là. Puis c'est encore le cas. Hein. Les gens peuvent booker jusqu'à la veille et ils vont avoir leur transport. Les restrictions ont été mises pour les accompagnateurs, justement pour qu'on puisse continuer de faire ça. Mais notre but, c'est de revenir à cette situation-là. Je vous le dis, là. Puis moi,
j'étais... Il n'y a pas de problème de gestion interne.
Non, mais je vous le dis, j'étais responsable de la mobilité à la Ville de Montréal. Je suis allé en commission parlementaire discuter fermement avec M. Bonnardel en disant que sa réforme sur sa loi sur la réforme de l'industrie du taxi allait causer des problèmes.
Je vous parle
de Québec.
Moi, je vous parle à la STM. Y avait-il un problème à l'interne sur la gestion du transport adapté?
Écoutez, là, moi, j'ai demandé à toutes mes équipes de faire le point sur toute la question du transport adapté. D'un, parce que je veux partir au front pour plus de financement. Quand vous dites, là, que les chauffeurs de taxi vous disent c'est pas assez payant, c'est pourquoi ça? C'est parce que, justement, on a un système de financement qui peut-être reconnaît pas à juste valeur leur contribution. Okay. Donc, il y a un business case à faire pour le transport adapté. Quant à la mobilisation des équipes, là, aujourd'hui, je suis pas capable de vous faire une analyse de la situation avant que j'y sois. Là, aujourd'hui, je vous dis que toutes les équipes sont mobilisées pour offrir le service tant avec notre flotte que dans la renégociation de nos ententes avec l'industrie du taxi.
Comme vous me répondez pas directement, j'en conclue qu'il y avait un problème sous l'ancienne administration avec le transport adapté.
Ben, je vous le dis, là. Moi, c'est ma façon de fonctionner, mon énergie vitale, c'est pas
d'essayer
de fouiller par le passé, mais de s'assurer que ça marche. Bref, quand il y a des gens qui n'ont pas de transport au jour le jour, comme vous en parlez, vous comprendrez que ma préoccupation première, c'est d'essayer de régler le problème.
Mais des fois, j'essaie de voir d'où ça part. Deuxièmement, en bout de ligne, là, c'est une question de cash. C'est-à-dire que les chauffeurs de taxi considèrent qu'ils sont pas assez payés pour faire la job. Vous, vous dites, moi, je suis obligé de mettre 15 millions puis je le prends dans mes poches parce que Québec met pas plus d'argent. L'enjeu pour les personnes qui ont besoin de transport adapté ce matin, qui vous écoutent, qui ont besoin d'être accompagnées dans bien des cas, puis s'ils l'ont pas, c'est pas les ressources, c'est le cash pour avoir les ressources. En bonne partie.
Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que nous, à la STM, on a décidé que pour l'offre de service, quand les gens font la demande, ça allait pas être une question de cash pour dire oui ou non. On a une politique...
Non, mais si vous avez pas le cash pour payer les chauffeurs de taxi correctement, ils seront pas au rendez-vous, là.
Ben, là... Avouons là quand même qu'avec la renégociation de l'entente, qui est encore là, on aurait pu s'asseoir sur notre vieille entente qui était bonne pour un certain temps, les conditions ont beaucoup augmenté. Il y a un gros step qui a été fait là. Ceci dit, ce step-là, il nous coûte 15 millions puis j'ai aucune entrée d'argent pour l'accoter, donc je creuse mon trou financier, donc c'est ma responsabilité comme président de la STM de faire en sorte de dire à mes bailleurs de fonds « wake up call ».
Ça, c'est Québec, ça.
C'est Québec, oui, tout à fait. Donc, wake up call, dans la gouvernance, l'argent nous vient de la RTM, mais financé à plusieurs sources. Là. Donc, wake up call, là. C'est-à-dire que là, on avait un joueur intéressant, important, efficace, qui est l'industrie du taxi, qui était au rendez-vous. Pas qu'ils ne veulent pas être au rendez-vous, mais là, faut réaliser que les conditions dans lesquelles on vit, c'est qu'on a une industrie du taxi qui est un peu déstructurée, qui est moins en santé qu'elle l'était avant, qui ne m'offre pas assez de transport pour répondre. Donc, au jour le jour, je vous dirais que c'est absolument pas une question de refus. Nous, tous les transports qu'on a, on les utilise. Puis j'espère en avoir plus. Par contre, pour boucler mon budget à la fin de l'année à la STM, ben oui, absolument. Là.
OK. Il faut vous dire, sérieusement, je l'ai dit autrefois en ondes, quand je reçois des notes, là, je suis en mode solution, je viens fou, là, parce que c'est comme des clichés, puis c'est des phrases qui veulent pour moi rien dire. Puis je suis pas toujours là, convaincu que la version qu'on me donne, je parle pas de vous, là, mais je parle de la STM, ça traduit la réalité. Madame Montpetit, là, au mois d'août, là, quadriplégique, elle se débrouille, elle paye ça de sa poche. Puis soudainement, quand on se met à appeler, oups, on est capable d'y offrir un service avec l'accompagnateur au retour. Trouvez pas que c'est une drôle de coïncidence? Je veux pas jouer au smart quand je vous dis ça, là.
Je comprends vos réflexes, là. Si vous voulez, là, je vous ferai le compte-rendu des discussions qu'on a eues à mon conseil d'administration avec la direction générale. Le début de la renégociation pour les ententes avec les chauffeurs de taxi a commencé au mois de mars ou avril, mais quelque part par là. On en est venu à une entente au mois d'août. J'ai même devancé, j'ai fait un conseil d'administration extraordinaire pour voter l'entente parce qu'elle était prévue le 7 septembre à mon conseil d'administration. Donc, on a pris quelques mois pour négocier une entente. Une chose qui est certaine, cette situation-là était intolérable, on va se le dire. C'était complètement intolérable. Mais là, ce que je vous dis, là, on était à 11 000, on est passé de 6 à 8 000, il me reste du chemin à faire, fait qu'on lâchera pas.
J'ai deux questions.
Ouais.
Peut-être trois, mais mettons, on commence avec la première. Quelqu'un qui vous écoute ce matin, qui a pas un rendez-vous médical, mais qui a besoin d'être accompagné pour aller à l'université, pour aller à une activité. À quel moment il peut se dire, je vais avoir du transport adapté permettant la présence de mon accompagnateur?
Comme avant le mois d'août, là, tout à fait. Ben, nous, c'est le plus tôt possible. Moi, je regarde les chiffres à chaque matin, là. Comme, je vous donne les chiffres de ce matin, là. On a 630 véhicules de taxi disponibles. Pour permettre de compléter cette offre-là, ça m'en prendrait autour de 600. Là, t'sais. Donc, je vous dis, là, on suit au jour le jour, justement, l'évolution de l'offre. C'est pour ça qu'on fait affaire avec des intermédiaires, pour être capable d'un peu planifier l'offre, là, parce qu'ils nous garantissent des niveaux de service, ou ils informent des niveaux de service qu'ils vont être capables de nous offrir. Donc, je vous le dis, là, pour moi, les chiffres comptent. Là. On est passé de 6 000, on est à 8 000, puis il faut continuer à remonter. On fait encore un travail au quotidien pour recruter des chauffeurs. D'ailleurs, je lance un appel à tous les
Mais c'est parce que vous savez qu'il y a un réseau parallèle d'entreprises privées qui ne gênent pas pour charger à du monde, qui sont, disons, qui ont besoin de sortir. Parce qu'une personne handicapée là, qui a besoin de transport adapté, oui, l'hôpital, bien sûr, mais c'est aussi pour vivre, sortir de la cabane, pour aller voir ailleurs, puis on s'attend que les pouvoirs publics qui prônent la mobilité nous offrent la possibilité de le faire. Puis quand je me fais arnaquer par quelqu'un qui profite de la situation, pas comique, là.
C'est pour ça qu'il faut revenir à de 10 à 11 000 déplacements par jour, incluant les accompagnateurs. C'est pour ça que on doit aider l'ensemble de l'industrie.
Là, vous n'avez pas de déchéancier, là.
Si j'ai les taxis demain, c'est demain, M. Arcan. Mais il faut que je les aille pour dire ça.
Madame Montpetit a payé 100 piastres de sa poche pour deux transports à l'hôpital, au CHUM, parce qu'elle n'était pas capable d'avoir un transport adapté, public, avec accompagnateur. Pensez-vous qu'elle peut avoir un remboursement de la STM?
Ben, la STM n'a pas une procédure de remboursement là-dessus, là. Puis vous comprenez que je peux pas régler ces questions-là au cas par cas. Mais une chose qui est certaine, là, moi, ma responsabilité comme président là, de la STM, c'est de s'assurer que l'offre soit au rendez-vous, qu'on puisse faire les transports. Cette situation-là, où pendant les quelques semaines, on a été en rupture de service, là, je veux plus jamais revivre ça, Parce que vous avez raison. On réalise justement, je vais vous faire un petit cri du cœur, on réalise justement comment ce qu'on est essentiel et fondamental justement pour ces déplacements-là. C'est notre mission, déplacer des gens. Puis déplacer les plus vulnérables, ben on la ressent encore plus, notre mission. Donc moi, ma priorité, c'est de régler la situation parce que la priorité, c'est offrir le transport aux gens. Mais je vous le dis qu'après, là, après, moi, là, je suis vraiment mobilisé par cet enjeu-là. Donc, c'est pas le temps de faire de la politique aujourd'hui, mais après, quand on va rétablir l'offre de service, puis ça ira bien.
Okay.
Je vous le dis, là, il faut aller chercher plus de financement pour cette activité.
Bon, là, on va passer à un autre sujet très rapide. Là.
Ouais.
15 octobre, c'est le projet pilote sur les chiens dans le métro. C'est quoi le projet pilote, en gros, là, les principaux paramètres que je devrais savoir?
Les chiens dans le métro, en dehors des heures de pointe, comme ce l'est pour les vélos. Des chiens, on va permettre un chien par client, le chien par terre qui monte pas sur les bancs. Bien entendu, les propriétaires de chiens doivent s'occuper d'être responsables de leur chien, de le contrôler. Évidemment, on veut pas de dégâts s'il y en a. Et avec un chien avec une muselière.
Dans le bas, peu importe la race, peu importe...
Les petits chiens qui sont dans des cages sont déjà acceptés dans le métro, là, mais les chiens qui ne sont pas dans des cages avec une muselière, la SPCA recommande une muselière de type panier. Quand on a fait notre paysage à travers le monde. On voit que des villes comme Paris, Berlin ont mis ces conditions-là. Et puis, on veut être prudent parce qu'on veut que ça marche. Quand on fait un projet pilote, on veut que ça marche. Mais notre but, c'est d'assurer que nos clients soient en sécurité.
Quand vous dites un projet pilote, est-ce que c'est pour l'ensemble du réseau ou c'est dans des stations en particulier, autobus également, c'est quoi?
C'est pour le métro.
Métro seulement?
Métro, oui.
Peu importe la station, donc à partir du 15 octobre, on va faire l'expérience.
Tout à fait.
OK. M. Caldwell, merci.
Merci à vous.
Éric Allen Caldwell est le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On va parler encore de transport, mais cette fois de transport scolaire. Il n'y a pas un matin où j'ai pas des courriels de parents qui apprennent parfois à la dernière minute qu'il n'y a pas de transport pour leur enfant. Au primaire, au secondaire, des parents là qui, je vous le dis, s'arrachent les cheveux sur la tête parce que les parents travaillent. On n'est plus là en télétravail, il faut aller conduire les enfants quand le service est pas offert. Puis je le sais, là, il y a actuellement, beaucoup m'écrivent, il y a un chauffeur qui me dit ce matin là qu'il y a du maraudage. Des compagnies qui sont en pénurie de chauffeurs vont tenter d'aller convaincre le chauffeur d'une autre entreprise de traverser. Puis on sait que c'est pas payant à être chauffeur d'autobus scolaire. Je vous présente Tina Kablankan, qui est mère d'une adolescente secondaire 1, qui fréquente une école secondaire à Rosemère. Les deux parents sont enseignants. Puis à chaque jour, on se demande quoi faire. Madame Kablankan, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Racontez-nous d'abord un peu ce que vous vivez là depuis le retour en classe, depuis la rentrée scolaire pour votre fille.
OK, merci. Alors, depuis le 29 août, nous avons reçu un courriel nous disant qu'il y avait des problèmes de chauffeurs et donc qu'on devait assurer nous-mêmes le transport scolaire de nos enfants. Et donc, nous avons appelé à la commission scolaire, nous avons appelé le transport scolaire, nous avons appelé l'école, ils nous donnent tous la même réponse, que nous devons assurer le transport et puis attendre, qu'ils ne savent pas quoi nous dire d'autre.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'enjeu, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Vous, c'est clair depuis le début, ils n'ont pas de chauffeur, il n'y a pas d'autobus.
Ils n'ont pas de chauffeur, oui.
OK,
oui.
Vous êtes enseignante.
Oui.
Votre mari aussi.
Oui.
À Montréal, tous les deux?
Oui, à Montréal, et on doit être à nos postes très tôt le matin parce qu'on est à Bois-des-Filons, il y a le trafic aussi, donc on ne peut pas déposer notre fille avant.
Alors, comment vous vous organisez pour que votre fille puisse se rendre à l'école?
On lui a acheté un ticket de bus et elle va à l'école avec. Mais souvent, elle manque le bus de la ville. Et quand c'est comme ça, elle doit attendre le prochain. Et elle arrive souvent en retard. Et quand le prochain aussi tarde, elle retourne à la maison. Et donc, quand moi, je suis au travail, je reçois le coup de fil de l'école me disant que ma fille n'est pas présente. Je suis stressée parce que je sais qu'elle était prête le matin. Et je ne sais pas si elle arrivait à la maison ou si elle est encore à la station d'autobus. Et c'est tout un stress jusqu'à ma pause, tant que j'appelle pour parler avec elle et être rassurée qu'elle est à la maison. Et c'est ça que je vis tous les jours, parce que je ne peux pas retourner à la maison la déposer, je suis au travail.
Vous enseignez à d'autres enfants, c'est oui. Un peu un paradoxe. Mais oui. Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire n'est pas en mesure de garantir le transport scolaire pour votre fille bon, et pour les autres. Oui. Vous n'êtes pas la seule dans ce coin-là. Là.
Je ne suis pas la seule, non. Je ne suis pas la seule. Il y a des parents qui sont là, qui déposent leurs enfants, mais moi, je ne peux pas.
Vous...
Nous sommes une vingtaine de parents comme ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entente avec d'autres parents? Je ne sais pas, une forme de covoiturage pour dépanner actuellement?
Oui, le problème, c'est que les amis à ma fille, eux, ont le transport scolaire. Parce qu'il y a plusieurs circuits qui ont été touchés, mais à Bois-des-Filons, c'est vraiment le circuit 902. Et donc, les autres amis, leurs parents sont toujours au travail parce que leurs enfants ont l'autobus. C'est vraiment ma fille.
Attendez, là, juste bien comprendre ce que vous me dites. Là. Vous, oui. Le circuit, il n'y a pas de chauffeur, jamais, il n'y a pas d'autobus, mais les amis de votre fille, il y a du transport scolaire à côté. Là.
Ils ont le transport scolaire juste à côté. Et elle n'a pas le droit de monter parce que ce n'est pas, c'est pas son circuit.
C'est
quand j'ai appelé à la commission scolaire pour me plaindre, ils m'ont dit non, qu'on peut faire le changement, mais cela doit être décidé par le service d'organisation scolaire et que cela peut prendre des mois.
Savez-vous s'il y a de la place dans l'autobus des amis de votre fille?
S'il y a de la place,
ouais.
Mais elle n'a pas le droit. Parce qu'elle n'est pas affiliée à ça.
Je comprends qu'elle n'a pas le droit, là, mais est-ce qu'il y a des bancs vides dans l'autobus? Savez-vous?
La fille m'a dit souvent qu'il y avait des bancs vides.
Je vous laisse à l'enseigner à vos élèves. Merci, Mme Cablanca.
Merci.
Trois beaucoup. Exemples ce matin, puis on va retrouver Marc après. Tu sais, quand on parle d'une campagne électorale, là, tantôt avec ces deux femmes, dont le fils, les fils ont plus de 30 ans, puis qui ont besoin de répit, ils ne demandent pas grand-chose. Un petit peu de répit. La STM, le transport adapté, là, on peut faire l'historique, puis je remercie beaucoup les gens qui m'envoient des infos, là, notamment beaucoup de chauffeurs de taxi, puis des gens aussi en parallèle. Là. C'est pas normal, puis c'est inacceptable. C'est les grands discours. Ce bout-là de la politique puis des élections, là, des phrases creuses, vides, puis des promesses à coups de milliards, pendant ce temps-là, t'es pas capable de trouver quelqu'un, puis offrir un montant convenable pour un service permettant à une personne handicapée d'avoir un moment de liberté, là. Ça fait dur. Là, transport scolaire, tu sais, mettez-vous à la place. Tu payes des taxes sur ton circuit, il n'y en a pas d'autobus. La rue d'à côté, il y en a. Puis non, on ne peut pas les prendre. C'est un foutu bordel. Et je veux bien la pénurie, je veux bien le maraudage entre les compagnies, puis je reconnais d'emblée que les chauffeurs d'autobus scolaires, hommes et femmes, sont mal payés. J'allais dire d'autres choses, être poli, mal payé. Et c'est inacceptable. Ils transportent nos enfants. Fait que nos politiciens qui se préparent pour les grands débats, là, puis les grands enjeux de société, là, juste ce matin, là, il y en a trois. Transport d'enfants, transport de personnes handicapées, puis répit. C'est assez concret, tout ça, là, pour les gens. Puis je pense que c'est important de donner une voix à cette mère enseignante, aux deux autres mères, puis à toutes ces personnes qui ont besoin de transport adapté que je vous fais entendre. Parce que c'est le fun, là, les grands débats sémantiques, mais arrive un moment où on peut-tu regarder là, le vécu du monde, concrètement, puis quelle action gouvernementale on peut poser pour que ça soit un vrai changement, là. Pas une promesse, pas une table de concertation, pas un sommet, mais une action précise.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler du panier d'épicerie. On a eu les chiffres hier sur l'inflation, une légère baisse. La Banque du Canada dit que c'est pas suffisant, alors il faut prévoir une augmentation des taux d'intérêt et peut-être aussi une forme de récession économique, certains économistes disent, au début de 2023. Mais il y a une chose, par exemple, qui est claire, c'est que pour bouffer, ça coûte de plus en plus cher. Le panier d'épicerie, l'inflation est solide. Il y a certains produits qui sont plus touchés. Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie est avec nous. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
Première question. Quand vous regardez le fameux panier d'épicerie là, sur lequel on se base pour calculer la valeur, là, c'est en croissance permanente. On n'a pas vu de la bouffe aussi dispendieuse depuis combien de temps?
81. Oui, ça fait longtemps. Hein? Ça fait 41 ans. D'ailleurs, à l'époque, il y a 40 ans, le taux d'inflation avait dépassé le 10 % pendant quelques mois. Le scénario qu'on regarde actuellement est fort différent. Ça fait déjà plus de 12 mois que le taux d'inflation alimentaire dépasse le taux d'inflation général. C'est pour ça que tout le monde s'aperçoit que les prix augmentent à l'épicerie. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens adoptent de nouvelles stratégies. Là. Ils savent, les consommateurs le savent, là. Ils savent que les prix baisseront pas de sitôt et doivent justement faire d'autres choses pour épargner.
Bon, on va parler du panier d'épicerie, puis après ça, on jasera des stratégies de consommation. Ouais. Quels sont les produits qui sont encore là, les plus touchés, qui sont les plus frappés par des hausses de prix?
Je vais vous dire, Paul, j'étais un peu surpris hier de la boulangerie, 15,6%, pratiquement 16% depuis un an. Ça nous a surpris un peu. On s'attendait à ce que la boulangerie augmente. Là, on en avait discuté en décembre lorsqu'on avait publié notre rapport, mais 16%, c'est beaucoup. Là. Donc, on se demande ce qui se passe là. Les produits laitiers, surtout au Québec, là, ça frappe fort. Là, le beurre, 26% depuis un an. Alors, on voit là, vraiment que certaines catégories qui contribuent au taux d'inflation. Les légumes aussi en augmentation, ça c'est mauvais signe. Vous en parliez plus tôt, là, le taux d'intérêt, notre monnaie. On entame l'automne avec une monnaie plus faible envers le dollar américain. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. On va surveiller ça de très près. Si les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis plus que nous, c'est certain que les importateurs là, vont avoir plus de difficultés à importer des produits moins chers.
Ça veut dire que ça nous coûte cher là, en légumes, par exemple, même si on est dans la meilleure des saisons.
Oui, exactement. Nous, on s'attend à ce que les choses se stabilisent pour le prochain mois, mais avec les mois d'hiver qui s'en viennent, on importe beaucoup, beaucoup de produits de l'extérieur là, durant l'hiver. Là. Alors, si on démarre l'hiver, je sais pas moi, avec un dollar à 70 sous, là, par exemple, c'est ce que les économistes disent, là c'est sûr qu'on s'attend à des bons là pour ce qui est des fruits et légumes. Là.
Alors, quelles sont les stratégies des consommateurs pour essayer de réduire la facture?
Ben, moi, je trouve que les médias font du bon travail pour éduquer les gens, pour informer les gens, leur donner des trucs, puis les gens écoutent, là. Les gens, on voit, là, on consulte les circulaires, on utilise nos points de programme de loyauté, on utilise plus de coupons. À la maison, on est plus domestiqué qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté, 7% des Canadiens ont acheté un congélateur pour la première fois depuis un an. Des air fryers, désolé pas, je sais pas comment on appelle ça en français, mais...
On se comprend.
Ouais, des air fryers, 23% des Canadiens ont acheté un air fryer depuis un an. Incroyable. Fait que les gens, là, trouvent toutes sortes de façons pour cuisiner bien s'outiller pour, justement, gérer l'inflation alimentaire.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Sylvain Charlebois de l'Université d'Alousée.
C'est 23.